Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45. Merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Permettez-moi de vous interroger tout de suite sur une information révélée par nos confrères du Monde. Il y a quelques instants, Emmanuel Macron, aujourd'hui par un texte, va reconnaître le rôle de l'État dans la mort de Maurice Audin. Autrement dit, pour la première fois, un président français va reconnaître, indirectement mais officiellement, que l'État a failli en recourant à la torture lors de la guerre d'Algérie.
C'est une information que vous m'apprenez, donc je ne veux pas trop la commenter. Je pense que en matière de mémoire, en matière d'histoire, il ne faut jamais craindre la vérité. En même temps, si j'ose dire, il ne faut pas instrumentaliser l'histoire, et c'est souvent un sport national français pour se battre la coulpe à perpétuité. Je pense qu'il faut avoir une vision équilibrée des choses, reconnaître les faits, mais faire en sorte que, pour pouvoir agréger d'ailleurs les jeunes et d'autres générations à notre, non pas roman, mais récit national, je pense qu'il faut au même temps faire très très attention. J'avais été très choqué, moi, à l'époque, lorsque pendant la campagne, Emmanuel Macron avait désigné la France comme coupable de crimes contre l'humanité.
La colonisation.
Donc je pense qu'il faut... La colonisation, absolument. Donc il faut tenir, si j'ose dire, le curseur de façon très précise, et ça ne me choque pas quand on révèle des faits qui sont des faits avérés. Vous me l'apprenez, je réagis à chaud. Mais voyez, c'est une balance très 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 fragile pour ne pas encourager notamment ce que moi j'appelle la concurrence mémorielle et qui brise souvent le tissu national.
La fragilité, elle consiste, ou l'enjeu, c'est de raviver des douleurs, des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. C'est ce que disait une partie de la droite d'ailleurs au moment où effectivement Emmanuel Macron avait fait cette incursion sur la colonisation et le crime de l'humanité. C'est ça le risque.
Il fallait condamner. Enfin, cette histoire, la colonisation, crime contre l'humanité, c'était désigner la France comme coupable éternelle. Et Camus avait une très très belle phrase d'ailleurs sur ce sujet-là. Et Camus connaissait bien d'ailleurs les pays du Maghreb et l'Algérie. Donc là encore, il faut être très prudent, faire face à la vérité et aussi faire en sorte que cette vérité puisse être intégrée dans le récit historique national et faire en sorte que la France puisse donner à des jeunes générations des raisons d'espérer quand même. Parce que si on désigne la France systématiquement comme coupable pour être estimable, comment voulez-vous intégrer à la France et au projet civique ?
C'est une ligne de crête.
C'est une ligne de crête, comme souvent en politique.
Voilà, bien sûr. Il reste équilibré, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Votre premier commentaire à chaud, c'est que là, le fait de reconnaître qu'effectivement l'État a une responsabilité dans les tortures infligées à Maurice Audin, sa famille réclamait depuis tellement
de temps. Vous voyez, je n'ai pas mené l'enquête, donc je ne suis pas historien, donc je suis extrêmement prudent.
Bruno Retailleau, Emmanuel Macron présente, avant qu'on connaisse le texte de cette lettre, dans 2 heures, son plan pauvreté. Il monte en première ligne avec un plan qui serait doté de plus de 8 milliards d'euros et une philosophie, aider les personnes à s'en sortir, non pas par l'assistance, mais par le retour à l'emploi. Vous approuvez ?
Bah, écoutez, toutes les initiatives contre la pauvreté, on doit les approuver. Simplement, moi, j'approuverai sur pièce. L'histoire récente nous a appris qu'avec Emmanuel Macron, il y a souvent un écart entre les annonces et l'initiative. Et ces annonces sont souvent beaucoup plus impressionnantes que la réalité et le résultat de ces initiatives. Mais je pense qu'en France, on a des chiffres. Le taux de pauvreté est plutôt en dessous de la moyenne.
Un des plus bas d'Europe.
Exactement. Mmh. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pauvres, 9 millions. Et surtout, il y a un problème d'ascenseur social. Une étude, il y a quelques semaines, révélait qu'il fallait à une famille pauvre 6 générations pour se hisser au niveau d'une famille moyenne.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, concrètement, comme on dit,
Je pense qu'il y a deux choses. Attendrez-vous
une amélioration de leur situation? Elles sont 9 millions en France, elles concernent.
Bien sûr, mais vous savez, j'ai été président de département, j'ai dû gérer l'insertion.
Vous augmentez le RSA ou...
Moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. Je pense que d'abord, faire en sorte qu'on ne paupérise pas les Français. Je pense qu'aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron a capté du pouvoir d'achat vis-à-vis de catégories qui sont des catégories faibles. Je pense par exemple aux retraités.
Pas les plus faibles, Bruno Retailleau. Pas les personnes dont on parle aujourd'hui.
Écoutez, j'étais cet été sur la côte vendéenne. Un patron pêcheur, il avait son épouse, 160 euros par mois de retraite, et l'État lui en prend 3 ou 4 euros. Bon, voilà, c'est 3 ou 4 euros sur 160 euros de retraite mensuelle, parce que les deux sont globalisés. Bien.
Ce que je veux dire. 160 euros de retraite mensuelle.
Oui, absolument. Absolument.
Et l'État lui en prend 2 à 3 euros sur
3 euros, parce que c'est l'augmentation de la CSG. Voilà. Parce que vous savez que dans
Les personnes les plus faibles, les retraités les plus bas dans l'échelle de revenus ne sont pas concernés.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un prélèvement. Je dis cela parce qu'il faut d'abord que la politique économique ne consiste pas à ponctionner via les charges, via les impôts, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en France a baissé en début d'année. C'est quelque chose d'absolument incontestable. Ensuite, je pense qu'il y a des filets de sécurité. Il y a des filets de sécurité. J'ai beaucoup aimé, il y a une phrase que prononçait et que rappelait le président Tadei Carman, le fondateur, pour dire qu'il fallait que chacun puisse contribuer. Nul n'est assez pauvre pour ne rien contribuer. Ça ne voulait pas dire une contribution financière. Ça veut dire que dans une politique de pauvreté, il y a des filets de sécurité. Et je pense qu'on juge une civilisation, un pays, à la main qu'il tend au plus faible. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Mmh. Mais il ne faut pas l'assistance. Parce que c'est maintenir les gens dans un état de dépendance.
Il tourne le dos à la politique de François Hollande.
Eh bien, je l'espère.
Voilà. Non, mais il tourne le dos. Qui avait augmenté les ESA.
Il l'annonce. Ouais. Je ne veux pas être, c'est difficile, je ne veux pas être trop définitif. Simplement, une politique de pauvreté, ça doit, consister à ne pas appauvrir les Français. On parlait tout à l'heure sur les agriculteurs. Un agriculteur sur quatre reçoit un revenu inférieur. Absolument. Au RSA. Donc, d'abord, cela. Et ensuite, les politiques de pauvreté doivent installer des filets de sécurité qui équilibre des droits, bien sûr, et des devoirs. Oui. Et de contribuer à la juste hauteur de ce que sont capables de faire des gens qui parfois, ou des jeunes qui parfois, sont désocialisés ou ont décroché.
Le macronisme est un narcissisme, dites-vous. Ça veut dire quoi, ce slogan ?
Non, j'ai voulu parler, je l'avais dit d'ailleurs au moment du congrès, de cette verticalité, de cette incarnation. Moi, j'étais plutôt favorable d'ailleurs au sortir du reste de la présidence de François Hollande, banalement ordinaire. Je pense que les institutions démocratiques doivent être incarnées. Parce qu'il y a une sorte de vide dans la démocratie en termes d'incarnation. Et la Ve République, le général de Gaulle, en lui donnant d'ailleurs une dimension héroïque, avait choisi de l'incarner de façon très forte. Il y avait un déficit d'incarnation. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que je pense qu'il a confondu cette verticalité, l'autorité de l'État, avec l'exaltation de sa personnalité. Je pense qu'il y a, y compris dans cette volonté de supprimer le clivage. Il prétend récapituler les termes du débat dans le cercle de la raison qu'il posséderait lui-même. Mais c'est manichéen, vous voyez. Il y a donc un problème. On risque de tomber dans un nouveau clivage, le camp du bien, c'est-à-dire lui, et puis le camp du mal, c'est-à-dire les autres. Voilà, sur beaucoup de sujets, c'est ça. Et je trouve que cette arrogance dont il fait preuve fréquemment, c'est sans doute cette percée d'égocentrisme. Mmh. Voilà, c'est une percée d'égocentrisme.
Bon, alors, c'est pour ça
évidemment,
que vous avez au Sénat,
se retrouver à 40 ans président de la République, c'est vrai qu'humainement, c'est compliqué.
C'est une verticalité qui, dans le fond, est un peu vide.
C'est une verticalité, je pense que, exactement, elle est un peu hors sol, et je pense qu'elle ne le sert qu'à lui. Pour l'instant, ne la voit pas servir aux Français, notamment en termes de rétablissement, par exemple, de l'autorité de l'État.
Bruno Retailleau, vous êtes en guerre contre l'Élysée au Sénat ?
Non, qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
L'affaire Benalla, avec la reprise des auditions, vous voulez contrôler l'exécutif ?
Non, mais c'est extraordinaire.
Est-ce que vous voulez contrôler l'exécutif ? Est-ce que c'est ça ?
Nous avons une mission. Écoutez, Emmanuel Macron, dans un grand discours il y a un an au Congrès, souhaitait que le Parlement renforce les moyens de contrôle. Les moyens de contrôle, c'est sûr, mais du gouvernement et de l'exécutif. Et de l'exécutif.
Vous savez très bien, Bruno Retailleau, vous avez décidé de convoquer Alexandre Benalla. Vous n'avez le droit de lui poser aucune question sur l'affaire.
Mais c'est pas ce qui nous intéresse, Elisabeth Martichoux.
Mais alors, ce
qui nous intéresse, c'est le fonctionnement
c'est
de la sécurité, de la sécurité de l'État. La sécurité du président de la République, c'est la sécurité nationale. Je vais vous dire, qu'est-ce qui donne de l'écho à cette affaire ? Ça n'est pas le Sénat qui travaille dans la discrétion, comme les Français d'ailleurs ont pu le voir, comme on travaille habituellement sur d'autres commissions d'enquête. Ce qui donne de l'écho, c'est le pouvoir. Expliquez-moi pourquoi la ministre garde des Sceaux se transforme en avocate de M. Benalla. Le porte-parole, M. Griveaux.
Pauline de Saint-Rémy confirmait l'information de l'Obs selon laquelle Emmanuel Macron a appelé Gérard Larcher mardi soir. Elle ajoute cette précision importante. Le président a en travers de la gorge une déclaration de Philippe Bas, sénateur LR, vous êtes le président du groupe, qui souhaiterait contrôler l'exécutif dans l'idéal. Et c'est ce que reproche Emmanuel Macron eh bien, au Sénat.
Il se trompe. Il se trompe sur le rôle du Parlement qui est de contrôler l'exécutif, les actions gouvernementales. Quand M. de Rosière contrôlait, par exemple, la comptabilité de l'Élysée, est-ce qu'il y avait un problème vis-à-vis de la séparation des pouvoirs? Eh bien non, c'est une évidence. Simplement, je termine. Qu'est-ce qui donne de la résonance à cette affaire?
Il a eu raison, Emmanuel Macron, d'appeler Gérard Larcher.
Pour le rappeler
à l'équilibre des
pouvoirs. Donc, on nous expliquait que c'était une dérive personnelle. Et on voit tout l'appareil d'État, du président de la République, à la garde des Sceaux, à M. Griveaux, se coaliser pour soutenir M. Bellegarde. Alors moi, je pose une question. Qui est ce bagagiste, comme avait dit M. Castaner? Qui est cette petite frappe, M. Benalla, pour qu'il puisse bénéficier du soutien de tout l'appareil d'État? La question, elle est là.
La question, est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que vous pensez vraiment que les Français sont obsédés en cette rentrée la transparence?
On fait un travail sérieux et on le fait dans la discrétion. Ce qui rompt la discrétion, c'est la déclaration des ministres et ils ne devraient pas se contredire. Au départ, on nous a dit, mais vous savez, il était autorisé à y aller, il n'y était pas. Ensuite, il devait y avoir une suspension de salaire. Il n'y a pas eu de suspension de salaire. On a dit ensuite, c'est un bagagiste. C'est un facilitateur de sécurité.
Vous voulez confondre les éventuelles contradictions du gouvernement dans cette affaire.
Et le Sénat,
vous êtes toujours au taquet, en tout cas, sur cette affaire, au Sénat, et vous, personnellement.
Non, je défends Philippe Bas, l'institution, et je crois que plus que jamais, on a besoin de contre-pouvoir. Montesquieu a eu cette belle phrase, c'est un problème éternel qu'un homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Eh bien, la démocratie, ce sont des garde-fous. Voilà, c'est ce que le Sénat essaie de faire, alors que l'Assemblée nationale a été digérée
par
défense et illustration.
Merci à vous, bonne journée.
C'est le pouvoir qui met en lumière l'affaire Benalla, du président à la garde des Sceaux, en passant par le porte-parole du gouvernement, vient de nous dire notamment Bruno Retailleau sur cette affaire. Merci l'un et l'autre. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.